Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, eh bien nous poursuivons notre réflexion sur nous. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qui le rend possible, qu'est-ce qui le rend pensable? Aujourd'hui, le nous, il est d'une certaine manière mis à l'épreuve par la question de l'accueil, la question de l'asile. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir à notre micro Delphine Diaz. Elle est maîtresse de conférences à l'université de Reims Champagne Ardennes. Elle a consacré ses premières études à l'histoire de l'asile en France au 19e siècle et depuis elle élargit avec d'autres, des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs. On va parler aussi de l'histoire telle qu'elle s'écrit aujourd'hui, à partir donc de cette enquête sur l'asile en Europe au 19e siècle. Bonsoir Delphine Diaz.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous avez publié en 2014 aux éditions Armand Collin, ce qui était votre thèse, « Un asile pour tous les peuples ». Exilés et réfugiés étrangers en France au cours du premier 19e siècle, et vous étudiez, je dirais, au ras des pratiques, au ras des sociabilités, ce nous, ce premier nous qui est celui de ceux qu'on appelle les proscrits, les exilés, bientôt les réfugiés, à Paris et ailleurs en France. Quel est ce nous? Quel est ce nous de l'exil?
L'ambition de cette thèse et puis ce livre, c'était en effet d'essayer d'embrasser les différents groupes d'exilés et de réfugiés, pour ceux qui ont été ainsi considérés par l'administration française, qui ont été accueillis donc en France sous les monarchies censitaires et sous la Seconde République. Et donc l'idée, c'était d'essayer de voir comment ces réfugiés, à la fois polonais, italiens, espagnols, allemands également, pouvaient coexister dans ce pays d'accueil et comment ils étaient traités en fonction de leurs origines nationales et de leurs options idéologiques. Et donc, en m'intéressant à cela, je me suis aussi intéressée à la façon dont ces groupes pouvaient essayer de former des communautés soudées, plus ou moins soudées, et parfois même fissurées, on va certainement en parler. Comment essayer de créer un nous en exil? Et il m'a semblé que ça a été effectivement une mission extrêmement importante pour ces exilés politiques accueillis en France, même si la tâche était extrêmement difficile, puisque l'administration française essayait dans un premier temps de les disperser géographiquement sur tout le territoire national. Et donc il y avait aussi un éclatement géographique auquel ces exilés politiques devaient répondre.
Alors ils arrivent où? Parce que ça commence par une arrivée de bateau, justement, Delphine Diaz, ce sont des Polonais. Et ces Polonais, en réalité, ils devaient fuir vers les États-Unis et ils reviennent en France, on est en 1849, c'est ça? Et à ce moment-là, ils arrivent à Brest, à Marseille, quelles sont les grandes portes d'entrée?
Alors j'ai choisi de commencer le livre par une histoire de bateau, une histoire de migration.
Une histoire d'eau, comme dit Nancy Green,
exactement. Même si en réalité, finalement, les exilés politiques étaient beaucoup plus nombreux à passer les frontières terrestres que les frontières maritimes. Mais il y avait des grands ports, effectivement, qui ont joué un rôle dans l'accueil, dans le transit des réfugiés en France au XIXe siècle. Je pense en particulier au Havre et à Marseille, qui ont été deux grands ports, voilà, les deux grands ports qui s'imposent au cours de ce siècle et qui sont aussi des lieux d'accueil, des lieux de tri, des lieux de réception, parfois même des lieux où on voit un enthousiasme de la population locale qui se manifeste. Mais par ailleurs, il faut bien noter que ces arrivées aux frontières d'exilés, elles se font essentiellement par les frontières terrestres, par les Alpes, par les Pyrénées pour les Espagnols qui ne cessent de franchir la frontière pyrénéenne.
Alors les Espagnols, les premiers, c'est les Joséphins, c'est-à-dire c'est ceux qui étaient les soutiens de Joseph Bonaparte, c'est ça, en 1815, et ils arrivent, ce sont les premiers à arriver.
Les soutiens, oui, de Joseph Bonaparte, qu'on appelle les Joséphins du côté français. Alors, qui ne sont pas tout à fait les premiers à arriver, mais c'est par ceux-là que j'ai commencé, mon étude sur l'exil étranger en France, et qui sont suivis par tout un ensemble de groupes politiques extrêmement divers, extrêmement éclatés, d'Espagnols, que ce soit des réfugiés libéraux pendant les années 1820, ou encore des réfugiés espagnols légitimistes, qui vont à l'encontre de tous les principes défendus par la monarchie de Juillet, et qui sont pourtant accueillis par cette monarchie orléaniste. Et puis, il y a effectivement ensuite des réfugiés républicains par la suite du siècle. Donc, il y a tout un ensemble, une stratification idéologique très complexe qui montre que le nous de l'exil, là aussi, il est difficile à faire exister en présence de ces multiples fractures et clivages idéologiques.
Et d'ailleurs, les différents régimes qui vont se succéder ont des politiques qui sont, sinon communes, du moins assez convergente, c'est une des surprises de votre travail, Delphine Diaz, vis-à-vis de l'accueil, ou ce qui ne s'appelle pas encore l'asile, mais qui commence justement à se construire comme une catégorie administrative.
Les politiques sont assez convergentes, il est vrai. C'est ce qu'avait aussi montré Gérard Noiriel. Hein, et j'ai essayé de poursuivre dans le sillage aussi de ce travail-là sur l'accueil des réfugiés. Et il me semble effectivement qu'il y a quelques principes qui se dégagent dans l'étude de cette politique migratoire, à défaut de parler de véritable politique d'asile au XIXe siècle. Plusieurs principes, parmi lesquels on a d'abord le principe de la séparation entre militaires et civils. On essaie de distinguer les deux groupes. Et puis, par ailleurs, il y a aussi un principe de hiérarchisation sociale qui s'effectue, à savoir qu'on ne traite pas de la même manière un général et un simple paysan ou un simple domestique. Et ça se traduit aussi par une politique d'attribution de secours qui est très très hiérarchisée elle-même.
Il y a aussi des lieux qui sont des lieux de rétention, d'enfermement, les pénitenciers, des premiers centres clos. Vous décrivez tout ça, Delphine Diaz.
On parle à l'époque de dépôts de réfugiés. Dépôt de réfugiés, donc c'est un terme qu'on retrouve de manière récurrente hein, dans ces écrits administratifs sur le traitement des réfugiés en France. Alors attention, ce sont pas non plus des camps de réfugiés fermés, même si parfois il y a eu des formes d'encasernement de ces réfugiés dans des lieux clos. Mais en général, le dépôt de réfugiés ressemble davantage à un lieu plus libre où les réfugiés sont surtout censés se présenter pour répondre à un appel nominatif. Et en fonction de cet appel nominatif, on peut leur attribuer un secours, le secours de réfugiés prévu par le ministère de l'Intérieur.
En avril 1832, François Guizot explique à la Chambre des députés que l'administration doit se bien assurer que les réfugiés auxquels elle donne des secours ont été réellement contraints de quitter leur pays par suite des événements politiques. Il ne faut pas que des vagabonds, des repris de justice ou même des hommes simplement malheureux viennent usurper des secours destinés à une infortune spéciale qui ne peut obtenir dans sa propre patrie aucun soulagement. Vous citez cette déclaration dans votre livre « Un asile pour tous les peuples » paru en 2014, Delphine Diaz. Et évidemment, on peut pas ne pas entendre l'écho aujourd'hui de ces politiques de tri entre migrants économiques et migrants politiques. Ça vous a frappé au cours de votre recherche, cette concordance des temps ?
Oui, Patrick Boucheron, c'est dans les années 30, les années 1830 hein, plus précisément, qu'on essaye de plus en plus de faire la traque aux mauvais réfugiés, à celui qui viendrait profiter des secours français alors qu'il n'est pas venu pour des motifs authentiquement politiques. Et donc, ce qui m'a intéressé aussi, en particulier à travers un patient travail sur les circulaires administratives portant sur le groupe des réfugiés, c'est de voir à quel point on essaye de distinguer de plus en plus le réfugié du vagabond, du déserteur, du mendiant, hein, des gens sans aveu, voilà, ce sont ces personnes en plein vagabondage qui circulent à travers les villes françaises pour trouver un travail ou trouver un secours, et à quel point, à cette époque-là, on est déjà dans l'obsession du faux réfugié.
Oui. Hein.
Donc il y a vraiment une idée qu'il faut séparer la migration authentiquement politique, qui elle serait respectable, et la migration économique, qui elle le serait beaucoup moins. Donc, alors, il y a une différence de dignité quoi entre ces différentes...
Une différence de dignité et qui fluctue en fonction évidemment de l'histoire du 19e siècle. Donc on va avoir tour à tour les Polonais, après l'insurrection de Varsovie en 1830, et puis également à plusieurs reprises les Espagnols et les Portugais, mais aussi les Allemands, les Anglais, après le printemps des peuples, parce que vous allez jusque-là.
Oui, il y a cette succession de moments importants dans l'accueil et de moments qui s'accompagnent de discussions politiques qui mettent en jeu cette identité de la France comme terre d'asile. Et ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là aussi, à ces différents moments d'accueil, est en jeu également cette représentation de la France comme terre d'asile, oui, presque mythique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que jamais vraiment on essaie de dater dans les discours politiques de l'époque le moment où on peut commencer à parler d'une tradition d'accueil véritablement enracinée. Donc il y a voilà, ça.
Parce que quand on entend aujourd'hui France terre d'asile, cette tradition française, Paris capitale de l'exil, au fond après ces recherches, et on va voir que vous les menez au large maintenant avec d'autres historiens et historien sur toute l'Europe au XIXe siècle, mais Delphine Diaz, vous le dateriez de quand ce moment, cette prise de conscience, cette cristallisation au fond d'une politique de cette identification de la France à la terre d'asile.
Alors bien sûr, il y a l'origine révolutionnaire de ce mythe, mais il m'a semblé quand même que c'est vraiment dans les années 1830, au début de la monarchie de Juillet, que le régime va se construire précisément en déployant cette mythologie d'un pays terre d'asile, bien sûr parfois en faisant écho à la Révolution française et à cette tradition d'accueil qui a été libérale, mais en effet j'ai l'impression quand même que c'est un moment assez fondateur dans la mythologie qui va s'élaborer autour de la France terre d'asile.
Donc vous décrivez finalement l'histoire croisée et contradictoire de deux nous qui s'affrontent, hein, le nous national et le nous des exilés, le nous national qui peut se crisper en nous xénophobe plus tôt qu'on le pensait. C'est une des surprises à vous lire dès le milieu du 19e siècle, dès 1848-49, il y a effectivement des premières fièvres xénophobes en France.
Oui, Patrick Boucheron, dans les années 1846-1848, il y a une forte crise économique qui va aussi jouer un rôle, bien sûr, dans les soubresauts politiques de 1848. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on observe en France, mais pas seulement, hein, des épisodes qui tentent à bien critiquer cette présence étrangère pour plusieurs motifs. Alors, bien sûr, ce sont d'abord et en premier lieu les travailleurs étrangers qui sont visés. En France, c'est particulièrement le cas où on a des travailleurs belges, britanniques, qui sont visés par ces violences xénophobes qui sont à la fois verbales et physiques.
Donc ça reste quand même corrélé à la crise économique.
Ça reste très corrélé à la crise économique. Alors c'est aussi intéressant de voir que ce ne sont pas seulement les travailleurs qui sont visés par ces critiques et ces violences xénophobes, mais les réfugiés de plus en plus font l'objet aussi de critiques assez vives de la part de la société, dans le sens où plusieurs pays d'accueil, la France mais pas seulement, ont mis en place des politiques de secours aux réfugiés. Et peu à peu se pose la question de savoir est-ce que on va continuer de donner des secours à des réfugiés étrangers alors que nos pauvres nationaux, eux, sont dans la misère et sont sous le coup du chômage, etc. Et donc on voit effectivement à ce moment-là, dans les années 1846-48, et plus encore avec les conséquences des reflux révolutionnaires de 1849, se poser la question dans différents pays, en France, mais également de manière très très vive en Suisse, où on a eu un accueil de réfugiés allemands républicains très nombreux en 1849, se poser la question de si on va poursuivre cette assistance financière aux réfugiés.
Alors, une des beautés de votre livre, Un asile pour tous les peuples, Delphine Diaz, c'est qu'on voit vivre. On voit vivre ces réfugiés, ces exilés, les Grecs, les Polonais, les Italiens, dans les cafés, dans les lieux de sociabilité, à l'opéra. Donc il y a déjà ces lieux de regroupement et de politisation. Vous décrivez ça très bien. C'est oui, la construction d'une communauté d'exilés.
En effet, c'est par les sociabilités que on a un moyen de retrouver une cohésion en exil. Et ce qui m'a semblé important ici, c'est précisément d'enquêter sur ces lieux qui permettent aux exilés de se retrouver. Et ces lieux, ils sont très divers. Ça va de la table d'hôte au Palais Royal, qui était à l'époque à Paris un grand lieu d'accueil des étrangers, un grand lieu d'accueil et de passage, un grand lieu de divertissement et de plaisir. Mais on a aussi d'autres lieux, comme les salles de théâtre, hein, où on n'hésitait pas là aussi à se retrouver, à parler très bruyamment. les cabinets de lecture où on peut lire la presse la plus récente et notamment la presse dans la langue de son pays d'origine. Donc c'est aussi un moyen finalement de se raccrocher linguistiquement à une communauté nationale. Et puis, il faut bien voir également que tous ces lieux où on pouvait se retrouver étaient aussi des lieux où s'exerçait une intense surveillance policière.
Oui, ils sont surveillés.
Oui.
Ils sont surveillés et d'une certaine manière, ils veulent aussi continuer la politique par d'autres moyens. Et là, vous travaillez à l'articulation, à comprendre l'articulation entre, voilà, cette communauté d'exilés à l'intérieur de la communauté française et puis aussi celles et ceux qui parviennent à convaincre. Alors il y a les files Hélène, il y a toutes tous ceux qui vont défendre ces causes. Il y a le général Lafayette qui en 1831 je crois crée un cercle d'aide aux Polonais. Et donc comment s'articule à ce moment-là nationalisme et cosmopolitisme?
Une question vaste qui va appeler aussi une réponse, j'espère, assez précise. En effet, on a un moment important dans ces années 1830 où on va essayer d'articuler cause nationale et cause étrangère. Et il se trouve que, en l'occurrence, la cause polonaise, la cause donc du libéralisme incarné par les réfugiés polonais, ceux qu'on appelle les Frères du Nord, après 1831 et après 1832 et après leur arrivée en France, ça va donner finalement aux Français une occasion aussi de se fédérer eux-mêmes et d'opérer des points de rencontre, des points de contact avec ce groupe des réfugiés polonais. Alors Lafayette va s'intéresser prioritairement à ces réfugiés polonais, mais en réalité, il va aussi s'intéresser aux réfugiés italiens, aux réfugiés espagnols. Et son salon est véritablement un lieu de rencontre transnational pour toutes ces communautés de réfugiés et pour ceux qui, il faut bien le dire, ceux qui vivent à Paris, qui sont parmi les plus favorisés, les plus privilégiés. Et effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que il y a certaines causes nationales et certaines causes politiques qui vont davantage que d'autres mobiliser les Français. Donc j'ai parlé de la cause polonaise, mais si on remonte un peu en arrière, il y a la cause des Grecs, le moment philhellène, qui a été beaucoup étudié par ailleurs par Hervé Mazurel. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est que dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces causes incarnées par les exilés politiques ont plus de mal finalement à fédérer l'intérêt et sont peut-être moins présentes dans le débat politique intérieur qu'elles ne l'étaient au cours du premier XIXe siècle.
Est-ce que vous diriez, Delphine Diaz, parce que c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, que plus la cause est perçue comme politique, plus elle est acceptée, parce que d'une certaine manière, un des problèmes aujourd'hui de l'exil, c'est de ne pas voir ou de ne pas comprendre, ou de feindre de ne pas voir et de ne pas comprendre que les causes de l'exil sont politiques. Et au fond, plus on parvient à politiser la cause de l'exil, plus aisément on l'accepte.
Je crois que la politisation de la cause de l'exil, effectivement, est un moyen de mieux comprendre, de mieux s'identifier aussi quand on vient d'un même bord politique, donc pour une société donnée envers un groupe de réfugiés. Il me semble aussi qu'il y a un autre point qu'on pourrait soulever, c'est la question de la médiatisation. Le fait qu'à cette époque déjà, ces causes incarnées par les réfugiés, elles sont déjà profondément médiatisées par la presse. Par la presse qui va relayer certaines causes d'exilés politiques, à la fois au niveau national, mais aussi à une échelle locale. On voit des journaux à toute petite échelle qui vont prendre fait et cause pour certains réfugiés, protester contre des expulsions de réfugiés à un niveau tout à fait local. Donc je pense qu'il y a cette question de la médiatisation qui permet aussi de comprendre comment des causes étrangères ont pu mobiliser particulièrement les Français et puis plus largement les Européens.
Et puis il y a aussi autre chose, c'est que ces causes, elles sont médiatisées, mais elles peuvent être de l'intérieur contestées ou, disiez-vous au début de cette émission, fissurées par des contradictions, des tensions, et vous montrez quand même un « nous » à l'épreuve, c'est-à-dire que ces exilés, ils sont aussi... eux-mêmes se divisent et se désunissent face justement à cette pression.
L'exil est un moment de cohésion, mais c'est aussi dans le même temps un moment où on peut se fissurer, se scinder. Et on observe dans ces années-là, du 19e siècle, en effet, des moments où les groupes vont peu à peu s'éclater, à cause de l'épreuve de l'exil. C'est le cas, par exemple, de la grande émigration polonaise dont on a parlé, qui va se fissurer de manière très nette entre un camp aristocratique et un camp libéral, puis de plus en plus républicain. Mais c'est plus largement le cas d'autres groupes nationaux en exil, hein, qui vont effectivement connaître une semblable scission. Et puis, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas seulement à l'échelle d'un groupe national qu'on voit ces fissures, hein, dans le nous des exilés. On peut le voir aussi même à l'échelle familiale, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des familles entières qui partaient en exil. Alors, c'est intéressant de voir que, par exemple, il y a des cas de frères en exil qui vont s'entre-déchirer une fois à l'étranger. Je pense, par exemple, aux exilés russes, les frères Tourguenieff, dans les années 1820. Donc, il y a un frère qui va rester libéral, hein, et puis un autre qui va finalement donner des informations à la police sur le tout petit groupe des exilés russes qu'on appelle les décembristes, ceux qui ont fait l'insurrection de 1825. Et donc voilà, une fissuration du groupe en exil qui peut aussi s'observer à l'échelle même de la famille.
Et l'ultime moment de rassemblement justement qui vous inspire des belles pages, c'est l'enterrement. Où là, l'enterrement d'un exilé, d'un proscrit, où là le groupe se retrouve.
L'enterrement, c'est un vrai moment, effectivement, d'incarner la cohésion du groupe. Donc, c'est un moment symbolique extrêmement important pour les groupes en exil. Et on observe d'abord que les cortèges funéraires sont aussi un moyen, finalement, de se compter, de savoir combien on est à pouvoir se rassembler. Et puis, c'est aussi un moyen de célébrer, bien sûr, la mémoire du défunt, mais... En célébrant la mémoire du défunt, très souvent également, il y a une dimension authentiquement politique. Et c'est ce qu'a montré, par exemple, Emmanuel Furex dans La France des larmes au sujet des banquets d'opposition. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans ces cortèges funéraires qui accompagnent les réfugiés, des discours politiques sur la question de l'asile, sur la question de la fraternité avec les Français, sont prononcés.
Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
Matière à penser, toujours en compagnie de Delphine Diaz, qui est maîtresse de conférence à l'université de Reims, Champagne-Ardennes. Vous nous avez fait entendre un lied de Schubert. Pourquoi ?
Un lied de Schubert. Alors Schubert n'est pas un grand voyageur et n'est pas un exilé, mais ce lied donc, qui s'appelle Das Heimweh parle du mal du pays, donc de la nostalgie de celui qui est en terre étrangère. Et du coup, ça m'a semblé particulièrement éloquent sur notre thème d'aujourd'hui, sur l'exil et sur la consistance du nous.
La consistance du nous, au XIXe siècle, vous avez commencé à l'étudier dans la France du premier XIXe siècle, un asile pour tous les peuples. On en a parlé dans la première partie de notre conversation. Mais l'histoire, ça ne se fait pas seulement toute seule. Vous êtes en train de constituer un groupe, un petit nous, aussi professionnels de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs financés par l'ANR qui s'appelle Asile Europe 19 et qui consiste au fond à étudier ça au large, c'est-à-dire la question de l'asile dans toute l'Europe du 19e siècle. Quels sont vos objectifs ?
Alors les objectifs de ce programme, c'est de décloisonner l'histoire de l'exil et de l'asile et d'essayer de réfléchir à une échelle qui dépasse l'échelon national, puisque finalement on s'est rendu compte que beaucoup d'historiographies européennes avaient beaucoup travaillé sur le cadre de l'État-nation, comment l'État-nation s'est employé à recevoir des réfugiés, à définir ces réfugiés, à mettre en place des politiques d'asile avant la lettre. Et il nous a semblé que finalement, il y avait assez peu de travaux qui arrivaient à mettre en relation ces différents contextes nationaux et à essayer de dégager des chronologies communes, des moments communs où s'imposent ces législations sur les étrangers, sur les réfugiés. Moments communs aussi du point de vue de la réception dont font l'objet les réfugiés dans la société civile. C'est aussi un des objectifs qu'on poursuit. Et c'est pour cela qu'on a, avec une équipe donc de chercheurs français et étrangers, on a essayé de réfléchir à l'asile en partant du cadre à la fois français, britannique, belge, suisse, et également en intégrant l'Espagne et l'Italie, hein, peu étudiés comme pays d'asile, plutôt comme pays d'exil à l'époque. Et donc voilà, on a voulu un petit peu dépasser ce cadre national finalement qui nous semblait encore une limite, être une limite dans nos travaux sur l'exil au XIXe siècle.
Vous avez dirigé Delphine Diaz, l'un des tout derniers numéros de la revue Homme et Migration. Il est paru au printemps 2018 sur les maux de l'exil dans l'Europe du 19e siècle. Décidément, cette question de la qualification ou de la déqualification du proscrit aux réfugiés, c'est vraiment décisif. C'est-à-dire que vous l'aviez déjà étudié en France, mais on le voit même encore aujourd'hui, désigner, qualifier, c'est déjà donner une indication sur la qualité de l'accueil.
La question des mots nous semble effectivement très importante dans ce dossier qui a été dirigé avec Alexandre Dupont. Question des mots puisque à travers effectivement ces termes qu'on emploie dans les lois mais aussi dans les circulaires administratives, on va voir se dégager une volonté des États de bien distinguer ces réfugiés. Alors c'est assez variable selon les États. En France, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein. Il y a une loi qui est la première loi sur les réfugiés qui est adoptée en 1832. Dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Je pense par exemple à la Grande-Bretagne, où il n'y a pas à cette époque-là de distinction juridique du réfugié par rapport aux autres étrangers, ce qui tient aussi à l'accueil très très généreux dont faisaient l'objet les étrangers en Grande-Bretagne au XIXe siècle, hein, puisqu'il n'y avait pas de limite apportée à leur arrivée sur le sol britannique. Et puis, dans d'autres cas, dans le cas de la Belgique, par exemple, on est dans un cas plus proche de celui de la France, puisque là, on va avoir, là aussi, une première loi qui est adoptée en 1835 et qui va répartir les étrangers selon plusieurs catégories et qui va aussi traiter de la question de l'expulsion. Puisqu'en fait, très très rapidement, dans tous ces pays qui commencent à édicter une législation sur les réfugiés, la question se pose aussi de savoir, finalement, comment on va opérer un tri. Comment opérer un tri entre ceux qui sont dignes de rester et ceux qui ne le sont pas? Ça passe par la question de la politique financière des secours. Est-ce qu'on va les aider ou pas? Mais ça passe aussi, de manière plus dure, par le fait qu'on va raccompagner à la frontière les réfugiés dont on ne veut pas.
Et ça, on peut faire une histoire transnationale, européenne, à l'échelle européenne, comme vous la tentez, par exemple, de ces politiques d'expulsion.
Effectivement, la dimension transnationale, elle s'impose d'autant plus avec un objet comme l'expulsion, parce que l'expulsion, déjà par définition, elle implique plusieurs États. L État dont vient le réfugié, l'État où il est accueilli, l'État vers lequel il est expulsé, il demande à être expulsé, puisqu'à l'époque, on pouvait encore choisir le lieu vers lequel on voulait être expulsé. Donc il y a toute une négociation qui doit se faire aussi entre ces différents États. Et puis, pourquoi l'ambition d'avoir un regard transnational? C'est parce que ces réfugiés expulsés, en réalité, ils passaient d'un espace à un autre. Ils passaient d'un État à un autre très facilement, finalement. Hein, ce qui nous a semblé aussi intéressant, c'est d'essayer de reconstituer des itinéraires migratoires. Un peu comme ce que font aujourd'hui les géographes. Hein, je pense par exemple au groupe Migre Europe, hein, qui propose beaucoup de cartographies d'itinéraires de demandeurs d'asile aujourd'hui, en essayant de montrer ces différentes étapes. Et précisément, on a essayé justement, nous aussi, avec les limites des sources, hein, d'essayer de reconstituer certains itinéraires d'étrangers expulsés, pour lesquels, bien souvent, la destination finale vers laquelle ils étaient obligés d'aller, c'était l'Angleterre.
Oui, déjà au XIXe siècle. Vous le montriez dans votre livre, il y a des parcours cosmopolitiques des exilés en France qui ne souhaitent pas nécessairement, Delphine Diaz, y résider.
Ils ne souhaitent pas nécessairement y résider et en revanche, ce qu'on peut noter quand même, c'est que ce qui est assez apprécié quand même dans le cas de la France, c'est cette politique des secours qui n'existe pas dans le cas britannique. Mais en revanche, dans le cadre britannique, eh bien, il y a une liberté entière qui est laissée aux réfugiés. Donc ça peut être très appréciable pour quelqu'un qui souhaite justement continuer une activité politique assez intense sans être sans cesse traqué, surveillé par la police.
Alors dans les renouvellements de cette histoire, on peut aussi parler des travaux de Sylvie April sur la proscription. Il y a voilà ce tournant transnational. Il y a aussi les études de genre. Vous travaillez avec l'association Mnemosyne qui promeut en France les études de genre et l'histoire des femmes. Et cette question-là, genre et exil, c'est vraiment une question qui est, je dirais, brûlante pour l'historiographie et aussi d'une certaine manière pour l'actualité.
C'est une question brûlante et c'est aussi un point aveugle dans l'historiographie puisqu'il y a finalement assez peu d'éléments sur la présence des femmes parmi les réfugiés qui sont toujours déclinés au masculin. De même, quand on parle d'un exilé politique au XIXe siècle, l'image
c'est toujours un homme.
Est toujours voilà masculinisée, en quelque sorte. Alors même qu'en réalité, ce qu'on peut voir à travers des sources administratives, policières, diplomatiques, c'est qu'il y avait aussi un certain nombre de femmes, d'enfants, là aussi un autre point aveugle de ces recherches sur l'exil, qui accompagnaient ces hommes, et qui parfois même partaient seuls, ou se retrouvaient seuls. Dans le cas de la France, au XIXe siècle, ce qui est intéressant, c'est que les femmes intéressent les autorités politiques à partir du moment où elles sont seules, célibataires, veuves. En particulier, les veuves sont vraiment un groupe particulièrement observé, avec attention par le ministère de l'Intérieur, puisqu'on a toujours peur que ces femmes seules, finalement, qui ne sont pas soutenues par leur mari, leur père, leur frère, tombent à la charge de la nation.
Mais aujourd'hui encore, Delphine Diaz, cette question des femmes ou même simplement cette présence des femmes dans l'exil, elle est occultée.
Elle est occultée, même s'il y a quand même quelques affaires très médiatisées, récentes. Je pense au cas de Leonarda, dont on avait beaucoup parlé, qui avait pointé aussi du doigt la présence de femmes, et de très jeunes femmes en l'occurrence, dans les groupes de demandeurs d'asile. Je pense également à la récente affaire autour de la Saoudienne accueillie au Canada. Donc je crois qu'on va quand même davantage vers une visibilisation des femmes en exil, ce qui était vraiment loin d'être le cas au XIXe siècle. Où on a quand même quelques cas d'héroïnes de l'exil, qui sont aussi des héroïnes romantiques, racontent, par exemple, la princesse italienne Belgioioso, qui va devenir effectivement une des figures très importantes de cette héroïsation de l'exil. On a aussi d'autres cas, bien sûr, de cas de républicaines, qui sont davantage restées dans l'ombre, elles. Je pense à Jeanne de Rouen en Angleterre. Ou encore, bien sûr, Louise Michel, parmi les communardes, en déportation, puis en exil.
Vous êtes 19e-iste, Delphine Diaz, et vous travaillez sur cette question qui nous importe, qui est effectivement peut-être le dossier critique du « nous » aujourd'hui. Quel accueil faisons-nous aux exilés? Est-ce que nous sommes séparés de ce 19e siècle? Est-ce que, comme effectivement une nouvelle historiographie nous invite à le faire, eh bien on doit avoir un rapport désenchanté à cette période qui serait loin de nous, hors de toute portée généalogique? Ou est-ce que ça nous parle encore, mais je dirais par-delà les discordances des temps, comment vous négociez votre rapport au fond à votre objet d'étude en tant que vous êtes une historienne et en tant que vous faites partie de ce nous large qui est celui des citoyens d'aujourd'hui de 2018.
Historienne et effectivement citoyenne aussi d'aujourd'hui, investie dans ces réflexions sur la question de l'asile en Europe et de la crise de l'asile en Europe dont on a parlé depuis 2015. Donc investie dans ces débats sur le 21e siècle, par mon histoire personnelle aussi, la question de l'exil au 20e siècle est aussi une question très importante et me touche beaucoup aussi, puisque mon grand-père lui-même est un réfugié républicain espagnol. Et puis effectivement, au 19e siècle, cette question de l'exil qui n'est pas si lointaine et n'est pas si éloignée de nos préoccupations, puisque ce que j'essaie de voir, c'est à quel point finalement ces législations, ces débats sur la question de l'accueil résonnent avec l'actualité d'aujourd'hui. À quel point cette question précisément de la façon dont on va distinguer les étrangers entre eux, fait écho là aussi à ces hiérarchisations implicites ou explicites qu'on observe aujourd'hui dans le débat public sur la place des demandeurs d'asile et des étrangers en France, et puis plus largement dans le monde. Et il y a effectivement un certain nombre d'échos qu'on ne peut pas négliger et qu'on ne peut pas passer sous silence, effectivement sont des échos parfois difficiles à traiter en tant qu'historienne avec un regard dépassionné sur toutes ces questions.
Y compris sur ce prétendu réveil des nationalismes en Europe. On parle ou on reparle beaucoup de 1848, mais vous nous parlez d'avant de cette monarchie de Juillet qui est aussi la matrice gouvernementale de cette question.
Je parle effectivement d'avant, même si c'est vrai que 1848, c'est aussi un temps fort dans cette nationalisation des sociétés, une nationalisation qui n'est pas une nationalisation fermée, puisqu'on a beaucoup de révolutions nationales qui vont se faire dans une optique là aussi de dialogue entre ces différentes insurrections et révolutions. Donc ce sont pas des révolutions fermées. 1848, c'est vrai que c'est aussi un temps fort, d'abord aussi dans les flux, dans les volumes de réfugiés que ces révolutions produisent. Et pas seulement en France, pour le coup, on peut bien sûr parler du cas des États allemands, avec là aussi une ampleur de plus en plus mondiale prise par ces flux à cette époque-là. Je pense par exemple au fait que nombre de réfugiés allemands alors vont trouver asile en Suisse, on en a parlé, mais aussi beaucoup vont partir en particulier vers les États-Unis, donc avec toute une tradition de l'émigration politique vers l'Amérique qui s'enracine à la faveur de cet épisode.
Vous nous avez parlé, Delphine Diaz, du rapport familial, personnel que vous avez à ce sujet, comme d'ailleurs beaucoup d'historiennes et d'historiens qui sont aussi, je dirais, les sujets de leur propre sujet. On a besoin de le mettre à distance, on a besoin de le tenir à l'œil, ce rapport qu'on a à son sujet, où on peut se laisser, au fond, guider par lui. Comment, là encore, on se débrouille avec ça?
Alors, je dirais que dans mon cas, j'ai pas vécu moi-même l'exil. Donc, déjà, c'est quand même une façon pour moi d'aborder les choses de manière quand même plus dépassionnée que si j'avais vécu moi-même, effectivement, cette situation. Malgré tout, je pense que ça m'a permis aussi d'avoir un cadre de pensée, une sorte de communauté parfois d'affect avec le sujet dont je traite, et comprendre par exemple, en effet, à travers l'étude des sociabilités, à travers l'étude du folklore de l'exil, des chansons de l'exil, comment ce sont aussi des biais essentiels pour comprendre cette expérience d'un séjour forcé à l'étranger.
J'avais envie de vous poser aussi une question, puisque vous parlez beaucoup de visibilité et d'invisibilité, à partir de ce beau livre de Caroline Hemke qui s'appelle « Contre la haine, plaidoyer pour l'impur », qui est un livre à la fois, je dirais, de philosophie et de journalisme, ou d'un journalisme philosophique à la Anna Arendt. Ça part d'une chose vue. Une chose vue, c'est à Clausnitz, en Saxe, en février 2016, et Caroline Hemke voit un quart de réfugiés avec beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, et voit surtout des gens qui non seulement les insultent, mais commencent à les caillasser. Et alors elle se demande, à propos de ceux qui vont justement, qui sont au bord du lynchage, mais que voit-il? Que voit-il autrement que moi? Vous posez cette question des fois, parce que, évidemment, il n'y a pas que ceux qui accueillent, il y a aussi ceux qui rejettent. Qu'est-ce qu'ils voient qu'on ne voit pas?
La question du regard est très difficile à saisir et très difficile effectivement aussi à imaginer dans le cas de tous ces gens qui ont refusé, qui ont rejeté les réfugiés qui cherchaient à trouver asile. C'est surtout à travers les sources judiciaires qu'on arrive, moi j'ai essayé de capter ce regard de la société d'accueil qui rejette. Puisque ces archives judiciaires, elles font état, parfois de manière vraiment très très précise, au ras du sol, de ces épisodes de rejet, d'agression, de violence, verbale et physique, Et on a en effet à travers ces sources une saisie possible de ces moments isolés, certes dans le temps, mais qui disent quand même beaucoup de l'atmosphère générale et des crises que peuvent traverser les pays en question. Donc je pense par exemple à des sources judiciaires qui racontent comment là aussi des ouvriers piémontais sont caillassés à Marseille, donc c'est à la fin des années 1840, et qui essaient de comprendre le geste et de retrouver en l'occurrence les auteurs de ces violences.
Et comprendre le geste, c'est voir ce que évidemment les auteurs de ces violences voient, c'est-à-dire en général ils voient justement des généralités, c'est-à-dire ils voient une menace globale, ils ne distinguent plus les visages, ce qui fait dire à Caroline M. que on est, du verbe haïr, on est toujours indistinctement. Mmh. Il est impossible de haïr avec précision. Or, le travail de l'historienne que vous êtes, c'est la précision. Et d'une certaine manière, toute description précise est amnistiante. Mmh.
C'est très juste, mais il est vrai que le travail sur les sources est vraiment rend vraiment parfois difficile la saisie de cette perception individuelle de l'événement, et on a très peu finalement de traces de la façon dont ces étrangers ont perçu ces événements. Je pense par exemple aux expulsions de travailleurs britanniques en 1848, sur lesquels a travaillé beaucoup Fabrice Ben Simon, qui est membre du programme l'Europe 19 dont on a parlé, et qui essaie de reconstituer justement très précisément les trajectoires de ces travailleurs britanniques qui ont été reconduits aux frontières par des Français, hein, qui ont été renvoyés parfois sur des bateaux pour traverser la Manche en sens inverse. Et effectivement, c'est vraiment très difficile de saisir la parole même de celui qui a été victime de ces moments de xénophobie populaire.
Vous y arrivez pourtant. Il y a des moments où les archives, on en parlait dans une précédente semaine de matière à penser, où les archives permettent d'entendre à bas bruit, faiblement, mais quelque chose qui se dit d'une parole tue. Comment à ce moment-là, quelle émotion on a quand on est historienne face à cette passion du détail, toujours la question du détail.
Question du détail, et c'est vrai que c'est très difficile de se déprendre, en l'occurrence, de ces émotions face à ces archives, parfois très très poignantes, qu'il s'agisse de parler de violences physiques, mais aussi de violences verbales. Je pense particulièrement à des pétitions sur lesquelles j'avais travaillé de Français qui demandent à ce qu'on arrête de secourir ces réfugiés fainéants, et qui demandent à ce qu'on préfère les nationaux par rapport aux étrangers. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui suis née dans les années 80, où le Front National s'est développé avec ses discours de préférence nationale, c'était très difficile aussi de se déprendre de mon propre vécu de citoyenne engagée contre la xénophobie, et d'essayer d'arriver à mettre une distance avec ce passé pourtant si proche de nous.
Parce que, au fond, changer de point de vue, c'est quand même notre métier, Delphine Diaz.
Changer de point de vue, c'est notre métier, mais il est vrai qu'il y a cette conjonction de regards qui est nécessaire et qui est fructueuse. Et je pense pas que ce soit une bonne chose pour l'historienne ou l'historien de se déprendre totalement de ce substrat d'émotion, de ce passé personnel, familial, dont on provient, puisque c'est aussi une source d'inspiration, c'est aussi une matière à penser, en quelque sorte. Donc,
comme ça fait une belle fin. Merci Delphine Diaz.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Delphine Diaz, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, je reçois un linguiste et un médiéviste. Chouette alors, c'est Bernard Cerchiglini. Bonne soirée.